Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Des miliciens de la CODECO ont tué 15 soldats des FARDC dans une embuscade tendue hier après-midi non loin de la paroisse catholique de Pimbo. C'est lorsqu'un cortège de plusieurs jeeps ramenait des militaires au front Anjala. Au regard de la situation du moment, le maire de Goma demande à ses administrés d'être vigilants en dénonçant toutes les personnes suspectes. Le commissaire supérieur principal recommande vivement une surveillance tous azimuts pour les entrées dans tous les lieux publics. Notre invité, c'est le chargé de projet de l'Association des femmes pour la promotion et le développement endogène basé à Uvira. Alphonse Kabala parle du projet d'anticipation des inondations dans la ville de Kindu-Maniema, un projet pour assister 400 ménages à haut risque d'inondation. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir au micro. Pascal Masirika, mise en onde de Pierre Diassinois. En Ituri, 15 soldats des FARDC, dont deux officiers supérieurs, ont perdu la vie dans une embuscade tendue par des miliciens de la CODECO hier, non loin de la paroisse catholique de Pimbo. C'est lorsqu'un cortège de plusieurs jeeps ramenait des militaires au front à Anjala, où ces rebelles avaient attaqué auparavant une position des FARDC. Le bilan dressé par des sources sécuritaires fait état de sept assaillants tués et 9 grièvement blessés. La société civile affirme que le trafic sur la route nationale numéro 17 entre Iga Barrière et Mahagi est coupé. Le récit de Jean-Claude Lequilé.
D'après plusieurs sources concordantes, ce drame a eu lieu entre Pimbo et Kbengbele, un ruisseau proche de Pitso, où des assaillants avaient tendu une embuscade à un convoi de véhicules des FADC. Selon nos sources, ces miliciens auraient laissé passer l'après-midi jeep avant de s'attaquer aux militaires, dont les deux colonels qui étaient dans les véhicules qui suivaient le convoi. Il s'en est suivi par la suite un échange de tirs nourri entre les deux parties, dans lesquels 15 militaires vont périr et leur jeep immobilisé. Toujours d'après les mêmes sources, les assaillants ont emporté une importante quantité d'armes et de munitions avant de disparaître de la nature. Ces soldats se rendaient au front Anjala où un autre groupe de ces miliciens venait d'attaquer quelques heures plus tôt une position des soldats des FADC. Ces derniers avaient réussi à neutraliser 7 parmi eux et 9 avaient été blessés. Ces rebelles seraient revenus dans la nuit pour attaquer les autres militaires restés pour garder les véhicules endommagés. Plusieurs véhicules restent stationnés à Jina, Pimbo ou encore à Fataki, en attendant la réouverture du trafic. Tous nos efforts pour avoir la réaction du porte-parole de l'armée à Ituri n'ont pas abouti. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, au regard de la situation sécuritaire du moment, le maire de Goma demande à ses administrés d'être vigilants en dénonçant toutes les personnes suspectes. Dans un communiqué rendu public ce samedi, le commissaire supérieur principal recommande vivement une surveillance tous azimuts pour les entrées dans tous les lieux publics, c'est-à-dire les églises, les écoles, les marchés publics, les bars et les boîtes de nuit. Objectif visé par François Kabeya Makossa, prévenir d'éventuelles menaces d'actes terroristes. Nord Kivu, encore des tirs à l'armure lourde ont été entendus ce samedi matin à Carton, au nord de la cité de Kichanga, dans le territoire de Masisi après la calmie d'hier. Des sources locales attribuent ces tirs aux rebelles du M23 et appuyé par la mer rwandaise. Pour l'instant, aucune réplique des FARDC n'est signalée. Les mêmes sources indiquent que ces rebelles du M23 ont placé deux positions sur les collines de Rusinga et de Kitobo en direction de Kibarizo. Et puis, au lendemain de l'occupation de la cité de Kichanga par les rebelles du M23, appuyé par l'armée rwandaise, les habitants dénoncent le pillage systématique et le sabotage perpétré par ces rebelles. Ce samedi matin, quelques tirs nourris ont été entendus aux environs de la cité. Les sources jointes à Kichanga affirment que ce sont ces rebelles du M23 qui continuent les opérations de ratissage autour de la cité de Kichanga. Le point de la situation avec vous, Noëlla Luzitu Kabambi.
Les habitants joints affirment que depuis hier vendredi jusqu'à ce samedi matin, ces rebelles pillent systématiquement des boutiques et magasins situés en plein centre commercial de la cité de Kichanga. La paroisse catholique Saint-Barthélemy de Kichanga, située dans le quartier Mungote, a été sabotée et pillée également. La ration alimentaire destinée à la police nationale congolaise et tous les biens sacerdotaux ont été emportés. L'hôtel Nyarusumba, qui servait de quartier général de l'armée, n'a pas été non plus épargné de ces actes. Le bâtiment a été complètement pillé, selon les mêmes sources. Celles-ci affirment également que l'ennemi a cassé des portes de plusieurs maisons d'habitation qu'il occupe dans le quartier Katanda, dans un endroit communément appelé Kisoko. Dans ces actes de pillage, les rebelles se font accompagner par la population civile venue de Bouiza dans le groupement de Bichusha, à 17 km de Kichanga, pour le transport des butins. Pour l'instant, toute la cité est quadrillée. Les rebelles y ont installé plusieurs positions tout autour de la cité. Il s'agit notamment des collines Rusinda au nord et Kitobu au sud-ouest, tout autour de la base de la MONUSCO. Les rebelles ont aussi progressé depuis hier soir sur l'axe Kichanga-Mweso, où ils viennent d'installer leur position avancée dans le village communément appelé Carton, à environ 5 km de la cité.
Merci Noëlla Luzitu-Kabambi pour ces précisions. Nord-Kivu, encore les personnes vivant avec handicap à Kichanga appelle au secours des organismes internationaux afin de sortir de ce qu'elle qualifie de gouffre dans lequel elles sont plongées depuis l'occupation de la cité de Kichanga par les rebelles du M23 et leurs alliés. Écoutez ce SOS du président des personnes vivant avec handicap de Kichanga, Jason Kabera, s'est confié à Radio Okapi.
Nous, personnes vivant avec handicap, se trouvons à Kichanga. Depuis la prise de la cité par les rebelles du M23, nous sommes coincés dans nos maisons sans assistance, car à leur arrivée, nos membres de famille ont pris fuite et nous ont laissés seuls.
Maintenant, avec la présence de ces rebelles dans la cité, nos familiers et amis qui nous portaient assistance sont tous partis fuyant le bal des rebelles. On est tout seul et la situation est plus encore difficile.
Nous demandons aux organismes d'aide humanitaire de venir nous assister et de nous faire quitter de cet endroit sans sécurité ni vie et nous orienter dans un endroit où nous serons sécurisés et assistés.
Et puis le service anti-mine de la MONUSCO appelle les habitants de Beni à utiliser au plus vite son numéro vert, le 082 028 28 32 en cas de découverte d'engins suspects. C'est suite à la multiplication ces jours-ci des alertes à la bombe enregistrées ces derniers jours. En l'espace de 10 jours, en effet, la région de Beni a été la cible des 2 attaques à la bombe artisanale. UNMAS appelle à la vigilance tous azimuts. Des précisions avec le chargé des opérations de UNMAS, Beni, Jacob Bedidjo, est au micro de Martial Papi Moukeba.
Il faut être prudent. Les ennemis sont entre nous. Ils vivent avec nous. Alors il faut être très prudent. Il faut voir qui n'est pas de nous, que vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous gardez son colis, il vous laisse comme ça. Alors c'est ça la faiblesse. Il faut être vigilant, il faut être prudent, il faut dénoncer quelqu'un que vous voyez suspect. Il faut directement alerter la police. Éviter l'attroupement. Ça va nous aider. Et aussi, surtout la nuit. Il ne faut pas être là où il y a beaucoup de monde pendant la nuit. C'est pendant la nuit, là, la soirée, qu'ils utilisent ces engins explosifs.
Et si la population constate qu'il y a, par exemple, des colis suspects ou non identifiés, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut vite aller chez la police. La police la plus proche, ils vont aussi nous appeler. Avec le système de l'alerte, c'est plus facile. On va vite venir intervenir. Nous avons un numéro vert. Vous appelez Vodacom gratuitement. C'est le 082-028-28-32.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, plus de 17 000 dollars américains, 24 millions de francs congolais et des vivres ont été collectés hier vendredi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, pour assister les déplacés de guerre. C'était au cours du lancement de la campagne de solidarité nationale présidée par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Modeste Mutinga Mutuishai a indiqué que cette aide et d'autres qui vont venir après sont destinées à près de 50 000 déplacés qui sont actuellement dans le territoire de Calais. Un extrait de ses propos recueilli par Pierrot et la Mégie.
Malgré toutes ces difficultés, chacun de vous a mis la main à la poche. Nous venons de récolter au total 17 850 000 dollars, dont 3 cash et 17 livres.
Les suspicions correctes. Ce sont des gens sérieux qui sont ici. Nous ne pensons pas qu'ils aient fait une promesse qui ne sera pas tenue. Collectez cet après-midi 24 210 260 francs congolais, dont 1 million en espèces et 23 millions par suspicion. Cet argent est destiné aux victimes de la barbarie de Rwanda et de ses supplétifs du M23. Nous n'allons pas le ramener à Kinshasa. Nous allons remettre cet argent au gouverneur pour qu'il puisse venir rapidement en aide à tous ceux qui se sont déplacés dans le territoire de Galéé et qui aujourd'hui n'ont pas de logis, n'ont pas à manger. Ils sont dans des difficultés énormes. Vous et nous demandons au gouverneur de prendre cet argent et de tout faire pour aider rapidement nos compatriotes qui sont à Calais.
Notez que l'argent et les biens qui ont été collectés à Bukavu ont été remis sur place au gouverneur Teongwa Bidjekassi, à qui le ministre Mutinga a demandé de le remettre rapidement aux déplacés au nom du gouvernement central. On en vient maintenant à la politique. Augustin Matata Ponyo appelle les Congolais à s'enrôler massivement pour élire prochainement des dirigeants capables de faire de la RDC le centre d'impulsion et de développement du continent africain. Le président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement a lancé cet appel aujourd'hui lors d'une matinée politique tenue ce samedi à Kinshasa. On écoute l'ancien Premier ministre dans ses propos recueillis par Innocent Fazilis.
Chers Congolaises et Congolais, allez vous enrôler pour que le rêve, celui de voir un jour la RDC devenir un centre d'impulsion et de développement du continent africain, que ce rêve devienne une réalité. Allez vous enrôler pour que le rêve de voir nos frères du Nord Kivu et de l'Ituri en particulier, mais c'est de l'Est du pays en général, de vivre en paix, en sécurité, comme nous ici, devienne une réalité. Allez vous enrouler pour que votre propre rêve, celui de vous voir un jour vivre dans une économie émergente, allez vous enrouler parce que c'est ça la volonté de Dieu, celle de nos ancêtres et de nos grands-parents, de voir les innombrables richesses de ce pays, non pas être pillées par des petits pays, mais aussi non pas être pillées par des dirigeants qui veulent s'enrichir. Nous demandons au pouvoir politique de donner le temps, la chance et l'opportunité à tous les Congolais dans l'ensemble du pays de se faire enrôler.
Et puis, trois personnes grièvement blessées, des vitres, des fenêtres et portes volées en éclats. C'est le bilan de l'attaque à l'aide des cocktails Molotov du bureau de la Convention démocratique de l'UDPS ce samedi ici à Kinshasa. Attaque survenue alors que le président de cet organe de l'UDPS tenait un point de presse. Victor Wakwenda attribue ses actes au Kuluna qui, d'après lui, serait venu de la 10e rue Alimété. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Nous avons été attaqués de dehors par des personnes munies des armes blanches qu'on appelle Kuluna et qu'on suppose venir de la 10e rue. Il semblerait que ce sont les forces de progrès. J'ai été évacué par nos services internes pour me mettre à l'abri du danger. Je sais que les éclats de vitres m'ont touché. J'ai du sang à mes doigts et à mon pantalon. Mais d'après ce que on me renseigne, que pratiquement toutes les vitres du bureau ont volé en éclats. Je ne sais pas s'ils ont pénétré pour attaquer les meubles et les instruments de travail.
Rendons-nous maintenant dans la province du Tanganyika où la jeunesse de l'Union Sacrée exige le départ de la gouverneure. Dans une déclaration faite hier vendredi après-midi à Kalemie, ce jeune accuse le gouvernement provincial d'incapable de mettre fin à l'insécurité qui sévit ce jour-ci à Kalemie, de mettre également fin à la hausse des prix de biens de première nécessité et de mettre fin à la multiplicité des taxes. On est écoute cet extrait choisi par Paul Emunanga.
Multiplicité des taxes, tracasseries administratives, l'insécurité totale depuis son avènement, la hausse des prix des denrées alimentaires, la division au sein de l'Union sacrée, les non-représentativité des actions du chef de l'État depuis son avènement, l'appui au bureau de l'Assemblée provinciale ici de l'OFCC. En effet, toutes ces manœuvres tendant à bloquer la vision du chef de l'État, les commerçants, la population délaissée à ses tristes sorts et toute autre tendance de la vie sociale, tout ceci montre l'insuffisance que Mme Jeline Kongamayuma et son équipe gouvernementale ne sont pas venus pour défendre la vision du chef de l'État, qui n'est rien d'autre que le peuple. D'abord, eu égard à ce qui précède, la jeunesse de l'Union sacrée du Tanganyika déclare le départ dans l'immédiat et sans condition de Mme Jeline Kongamayuma et de toute son équipe qui ne cesse de ternir l'image de l'Union sacrée.
Contacté à ces sujets, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika s'est réservé à tout commentaire et toutes nos tentatives pour entrer en contact avec la gouverneure du Tanganyika sont restées vaines.
Actualité internationale.
Des contrôles imposés en France aux voyageurs venant de la Chine devaient être terminés le 31 janvier, mais ils ont été prolongés jusqu'au 15 février prochain au vu de l'évolution sanitaire du moment selon un décret publié ce samedi matin au journal officiel. La Chine a abandonné sa politique stricte des zéro Covid début décembre dernier après des protestations contre les restrictions permettant ainsi aux gens de voyager et au virus de se propager rapidement dans tout le pays. Les États-Unis d'Amérique sont sous le choc actuellement après la diffusion d'une vidéo montrant la mort d'un jeune afro-américain de Memphis, roué de coups par des policiers à l'issue d'un banal contrôle routier. Le président Joe Biden s'est dit scandalisé et profondément meurtri par le drame et par les violences de ces images. Le constat est terrible, selon lui. En l'espace de 2 ans, le nombre de personnes tuées par la police continue d'augmenter dans le pays.
L'invité.
Notre invité, c'est le chargé de projet de l'Association des femmes pour la promotion et le développement endogène basée à Uvira au sud Kivu. Alphonse Kabala parle du projet d'anticipation des inondations dans la ville de Kindu Maniema. Il est interviewé par Florence Kizalunga.
Monsieur Alphonse Kabala, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez de lancer les projets d'anticipation aux crises des inondations dans la province du Maniema. À quoi consistent ces projets?
Oui, c'est juste un projet de préparation ou d'anticipation aux inondations parce que nous avions la fois passée développé un plan de contingence pour cette ville de Kindu par rapport aux inondations. Et le plan de contingence nous a montré que Kindu c'est une ville vraiment où il y a de fréquentes inondations. C'est pour cette raison que nous avons juste conçu un projet et nous avons reçu les fonds de notre partenaire Stat Network à travers son mécanisme de financement Stat Ready pour venir juste mettre en œuvre les actions d'anticipation ou de préparation et les actions de relèvement en faveur des 3 quartiers des 3 différentes communes de la ville de Kindu.
Quels sont ces quartiers?
Bon, les 3 quartiers sont entre autres les quartiers Kasuku dans la commune de Kasuku, les quartiers Mangobo dans la commune d'Alunguli et les quartiers Lukunda dans la commune de Mikelenge.
Qu'est-ce qui justifie les choix de ces 3 quartiers seulement?
Bon, selon le plan de contingence et les études qui ont été faites dans la ville de Kindu, ces 3 quartiers paraissent être des quartiers qui sont à très haut risque des inondations dans la ville de Kindu. Parce qu'il y en a 7 quartiers qui sont inondables, mais ces 3 quartiers ici sont à très haut risque des inondations.
Dans la province du Maniema, il y a plus de 3000 ménages qui sont victimes des inondations. Allez-vous prendre en charge tous ces ménages?
Non, de toute façon, le projet en soi ici de préparation va prendre en charge ou va assister ne fût-ce que 400 ménages victimisés des inondations. Donc 400 ménages les plus vulnérables affectés par les inondations.
Et les sorts des autres, Et puis, comment savoir si tel ménage est réellement victime, victimisé?
Et de toute façon, nous avons des critères d'éligibilité et nous avons aussi des critères de vulnérabilité. Et comme vous le savez, madame, une belle femme ne donne ce qu'elle a. C'est encore la première phase du projet et nous-mêmes, nous sommes vraiment conscients en nous imprégnant de la réalité et du contexte humanitaire de la ville de Kindu. Nous nous rendons compte que les inondations sont fréquentes. Il y a au moins plus de 3458 ménages qui sont toujours touchés et affectés par ces inondations. Mais à notre niveau, nous allons juste d'abord assister dans cette première phase, les 400, et nous allons juste continuer à faire les plaidoyers auprès de nos différents partenaires financiers et différents bailleurs pour voir si nous pouvons encore trouver d'autres fonds pour revenir assister les restes des populations affectées.
Vous avez bien dit que les inondations, c'est à répétition dans la province du Maniema, mais votre assistance prend en compte les victimes de quelle période?
Notre projet ou assistance va juste consister à prendre les populations touchées des inondations depuis le mois d'avril jusqu'au mois de novembre de l'année passée.
Comment allez-vous découvrir que telle est victime de la pluie du mois d'avril, mai jusqu'à novembre, étant donné qu'il y a eu plusieurs inondations?
Oui, nous connaissons que le 12 décembre passé, il y a eu d'autres inondations dans la ville de Kindu. Nous avons été informés sur cette situation. Pour savoir si telle est une victime d'avril jusqu'au mois de novembre, nous avons juste un questionnaire d'enquête, madame. Et dans le questionnaire d'enquête, il y a autant de questions que nous posons à ces victimes parce que nous passons ménage par ménage. Et c'est à travers ces questions que nous pouvons directement dénicher si telle est victime de cette période ou pas.
Bon, pour terminer, monsieur Alphonse, quelle sera la nature de votre assistance?
Bon, de toute façon, l'assistance sera en nature et en espèce. En nature parce que nous allons d'abord sélectionner 3 structures médicales que nous allons appuyer en approvisionnant ces structures en médicaments et intramédicaux qui, à leur tour, ces structures vont maintenant commencer à prendre en charge gratuitement toutes les victimes affectées par cette étrise ou ces inondations d'avril jusqu'à novembre. Et la deuxième assistance que nous allons devoir apporter à ces victimes, nous allons aussi leur assister à NFI, à non-vivre, ou soit en cash, soit à travers les banques ou les institutions de microfinance, ou soit via mobile money.
Monsieur Alphonse Kabala, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chargé de projet de l'Association des femmes pour la promotion et le développement endogène basée à Uvira. Alphonse Kabala a été interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Noëlla Luzitu Kabambi et Pelekipe Lamondo qui m'ont accompagné.